Bonjour, merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une séance un peu spéciale parce qu'on n'a jamais abordé cette question des tissus africains. Je pense qu'on en parle beaucoup, mais sans avoir pris le temps de l'évoquer. Donc on est ravis d'avoir Stéphanie et Anne qui viennent nous parler de ce que nous révèlent les tissus africains. Et en fait, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de faire cette première partie ici à l'IHTP, au sein du séminaire que vous connaissez tous, et Stéphanie, tu en parleras peut-être après tout, et de faire une deuxième partie à l'IFM au mois de juin. Donc en fait, ça serait une découverte ou une descente dans l'histoire des tissus africains qui se ferait en deux temps. Donc je vous laisse la parole, ça sera beaucoup plus précis, et je vous remercie infiniment d'être là, ça va être passionnant. On en a déjà parlé pendant nous toutes les deux une heure et demie, et je sais déjà que ça va être passionnant. Donc merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Merci Sophie. Bonjour tout le monde. Effectivement, un grand merci au CNRS de nous accueillir et de finalement nous prêter cette scène de choix privilégiée pour traiter d'un tel sujet qu'est le tissu africain, parce que ça vous a pas échappé. La mode africaine en ce moment a le vent en poupe, crée une certaine fascination et finalement, un retour sur le textile, puisque finalement tout est lié au textile et on va vous en parler mieux. On avait envie aussi de le replacer dans ce qu'il a de plus porteur de signification. Donc avec Anne, que voilà, ici. Donc je vais nous présenter toutes les deux. Donc moi d'abord, Stéphanie Prénemourou, je suis consultante en stratégie de marque et en ingénierie de projets culturels et créatifs. J'ai monté mon cabinet il y a 8 ans qui s'appelle Métis Insight. Donc j'ai aussi monté pour l'IFM, l'Institut français de la mode, le pôle Afrique-Caraïbes, qui a pour objectif en fait d'ouvrir un peu, de décentrer le regard, de permettre aux professionnels de la mode, du textile, du design et de l'image de s'intéresser à d'autres latitudes, d'autres géographies, et notamment de tirer le fil un peu plus loin, parce que souvent, on a l'impression que tout vient de ce côté-ci de la planète. Eh bien non, il y a encore énormément de richesses créatives à explorer et voilà, quelques opportunités à sonder, notamment sur le sud de la planète. Donc c'est un peu l'objet. Il se trouve que la saison des Afriques a lieu l'année prochaine, en 2020. Donc là aussi, ce sera un programme qui va s'étoffer davantage. C'est la primeur aujourd'hui sur un tel sujet. Et pour cela, je me suis entourée de Anne Grosfillet, qui est anthropologue des textiles, qui notamment a écrit plusieurs livres sur le sujet depuis 20 ans déjà.
Oui.
Voilà, 20 ans. Donc, le premier livre était L'Afrique des textiles, paru aux éditions Edissud en 2004. Le textile d'Afrique entre tradition et modernité en 2006. L'abécédaire du wax en 2015. Plus récemment, peut-être que ça ne vous a pas échappé dans les librairies, Wax & Co., dont vous voyez la couverture, qui a connu un certain succès. Et en avant-première, on vous annonce la sortie du livre Wax.
Wax 500 tissus.
Ouais. Voilà.
Chez La Martinière, qui sort le 23 mai. Voilà. Et pour, si vous avez des amis étrangers, Wax & Co. est traduit aussi en anglais, en italien, et sort en Japon dans les semaines, en japonais, pardon, dans les semaines à venir.
Un grand merci pour votre écoute. Je vous propose de commencer. Donc, de la parure sociale à l'apparat symbolique, le fil de la culture africaine est tiré pour un décryptage didactique au travers le prisme du vêtement. Des écorces battues au pagne drapé d'un chef à camp, Anne et moi vous proposons une exploration des matières et des étoffes africaines pour comprendre les peuples, de leur organisation à leur cosmogonie. D'où provient cette fascination pour les textiles africains? On ne peut pas parler de mode africaine sans parler des textiles. C'est pourquoi nous avons décidé de vous dresser le panorama de ce qui façonne réellement, c'est-à-dire en premier lieu les couleurs et les motifs, quel que soit leur support d'ailleurs, qu'ils soient le vêtement, le textile, les bijoux et les perles, entre autres, qui sont très usités, les couleurs et les motifs occupent une place de choix. Pour ce qui concerne les textiles, le climat chaud et humide étant peu propice à la préservation des fibres, il est difficile de dater l'apparition du tissage en Afrique. Néanmoins, nous avons retrouvé des textiles dans le sud du Soudan qui permettaient de dater les premiers textiles à une période antérieure au XIe siècle, même si on prête la naissance des premiers tissages en Éthiopie. Et pour ce qui concerne les perles, nous savons que l'Afrique est le premier consommateur au monde de perles, toujours aujourd'hui, et que le premier producteur est l'Afrique du Sud. Si vous avez des questions, on les prendra à la fin. Nous avons un petit temps. Oh, pardon. Derrière ces couleurs et ces motifs correspondent différents moments de vie, lesquels sont autant moments importants de la vie en société de l'individu, où le vêtement, la parure, prend toute sa signification. Pour les hommes, comme pour les femmes, le vêtement parle et signe un statut social, c'est-à-dire la place que l'individu occupe à un moment T dans sa société, son clan, son village ou sa tribu. Sur un continent comme l'Afrique, où la culture orale domine, le vêtement représente aussi un langage à part entière. Et les perlages et les accessoires aussi ont une place clé, notamment la plupart d'entre eux sont faits en perles traditionnelles qui signent aussi les perlages traditionnels, pardon, dans lesquels la plupart du temps ils sont faits, comme chez les Xhosa, les Zoulous ou les Ndébélé, peuvent s'apprécier à différents niveaux. S'ils offrent à l'évidence un plaisir esthétique, ils sont également dotés d'un rôle tout à fait passionnant que représentent les combinaisons de couleurs qui signent l'appartenance à chaque région. A contrario, chez les Nubias, l'esthétique corporelle est valorisée. Donc là, on préfère, dans certaines cérémonies traditionnelles, parfois délaisser le vêtement pour valoriser le corps esthétique, que est l'image d'un corps sain et celui d'un corps athlétique, nu, complètement épilé et ornementé à minima d'une ceinture, laquelle est faite aussi principalement en perles. Et s'afficher sans ceinture, c'est comme s'afficher dans une nudité honteuse. Donc un corps qui serait totalement nu sans ceinture serait vu comme nu, alors qu'un corps revêtu d'une ceinture est exprimé comme valorisé. Donc on peut dire que la ceinture est l'accessoire de la décence vestimentaire. Il en revient sur le perlage. Le perlage, comme je le disais un peu plus tôt, l'Afrique est le continent le plus consommateur de perles et l'Afrique du Sud en est le premier producteur. En Afrique du Sud particulièrement, le perlage a différentes significations et selon la façon, enfin, rien n'est monté au hasard. Le choix des couleurs est très signifiant, les motifs, la façon dont les motifs se répètent et sont enfilés sont aussi très signifiants et représente finalement l'expression esthétique la plus démocratique. Et les perles jouent un rôle particulièrement important pour décrire aussi les états émotionnels. Preuve en est en Afrique du Sud que les perles sont utilisées pendant les périodes de séduction et notamment peuvent raconter un peu la progression de son statut, de son émotion propre, passant de « je sens parler », annoncer que nous sommes amoureux, annoncer que nous sommes en couple, en flirt ou mariés. Ce sont là les petits exemples que je vous ai mis, ce sont des lettres d'amour qui s'envoient d'ailleurs. Alors si vous en trouvez, gardez-les précieusement à l'heure de la restitution. Je ne devrais pas dire ça, Mais effectivement, c'est, ça a une valeur intrinsèque qui est... Aujourd'hui encore, les mariages sont l'occasion de raviver les traditions et de réinterpréter l'imaginaire collectif. Chacun est libre. Alors, effectivement, les mariages en particulier rassemblent la famille au sens élargi. La famille en Afrique, c'est aussi les membres du même village, c'est aussi des membres qui appartiennent à la diaspora et qui reviennent pour l'occasion célébrer le mariage. Et à l'occasion de ces mariages, Anne me racontait qu'on a
toujours... En Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, notamment. Peut-être que tu veux prendre la parole sur le sujet, d'ailleurs.
oui, en Côte d'Ivoire, en général, maintenant, il y a des wedding planners. Et c'est l'occasion de célébrer un petit peu toute la richesse des cultures textiles du pays, c'est-à-dire que le mariage auquel j'ai assisté, on a le couple de mariés a porté à la fois du raffia d'Ida, comme on le voit sur la photo. Ils ont porté ensuite des écorces battues du peuple bété. Ils ont porté des quintés à Caen, du kita, des tissages baoulés et ce qu'ils appellent le style Obama aussi, qui sont des tissages qui sont rebrodés par-dessus. Donc le mariage est finalement une manière de célébrer toute cette diversité de savoir-faire et toute cette culture des différentes régions, même si on est issu d'un groupe particulier. Il y a une dimension nationale, en fait, de valorisation des étoffes.
Donc, effectivement, lors des mariages, on a aussi l'apparition des griots. Les griots sont, dans ces cultures orales, ce sont des personnages qui sont très importants puisqu'ils nous racontent l'histoire des familles. Ça remplace un peu, ça peut remplacer les livres d'histoire d'ailleurs, puisqu'ils ont la charge de raconter l'histoire de la famille de génération en génération. Donc ce sont des gens qui vont permettre de retransmettre les faits historiques, les faits à souligner de la famille. Et de la même façon, le tissu, du moins les ancêtres de la famille, puisque c'est comme ça qu'on dit de façon très respectée, les plus vieux de la famille vont avoir aussi ce rôle de raconter en quoi le tissu est important à ce stade-là, et ça va se transmettre de génération en génération, ça va raviver un petit peu les mémoires et les traditions. Alors même si le mariage est l'occasion de réinterpréter à sa façon et dans sa modernité le tissu. Donc c'est un moment qui est libre, et c'est ce qu'on voit en général sur les textiles africains, c'est-à-dire que on s'approprie ce textile et on le réinterprète dans différentes tenues dans lesquelles on est bien sûr à l'aise et qui signent un peu la modernité. Donc c'est le textile est le véhicule de tous les codes nationaux, mais qui est réinscrit dans une certaine modernité. Le vêtement est donc une signature très verbale de l'identité d'un individu, mais ce n'est pas tout. La coiffure et l'ornementation corporelle, dont ici la peinture faciale est peut-être la plus impressionnante, contribuent tout autant à ce qui définit l'identité ethnique et sociale d'un individu. Ici, on a choisi quelques exemples caractérisant une partie de la diversité des expressions et des identités. Alors, comme vous le savez, l'Afrique est un continent très vaste, hein, puisqu'il est composé de 54 États souverains dans lesquels on parle plus de 2000 dialectes. En moyenne, on en compte 3 dialectes parlés par personne, parfois plus. Les cultures sont, les tribus, les populations sont de plus en plus nomades. Tout ce qui signe aussi son identité, que ce soit, donc on l'a vu par les vêtements, ou par les ornementations corporelles, indique finalement l'appartenance à un groupe, une société. Ça va vous donner votre statut social. C'est un peu comme votre passeport, finalement. Même la couleur, par exemple, des Touaregs est signifiante et peuvent le porter que... on va dire certains Touaregs d'un certain âge, puisque ça signe la sagesse. Rien n'est laissé au hasard. Aujourd'hui encore, certaines coutumes les plus traditionnelles jusqu'aux plus traditionnelles persistent. Elles sont parfois circonscrites aux événements les plus emblématiques ou revisitées de façon symbolique, mais ces attributs sont encore bien présents et permettent aux jeunes générations de rappeler leur filiation et leur appartenance à un pays. Puisque, comme je vous le disais, les populations sont de plus en plus nomades. Quand on croise certains signes qu'on a coutume de voir dans sa localité, dans son pays, c'est un signe. La tête, le cou et les épaules sont l'expression, sont les zones du corps les privilégiées pour l'expression de la coquetterie. Puisque c'est un atavisme culturel. En général, les peuples africains et les afrodescendants sont en général très coquets, ce depuis l'enfance, que ce soit les femmes et les hommes. C'est dans toutes les cultures, les plus traditionnelles ou jusqu'aux plus modernes, les jeunes urbains prennent ces zones du corps pour exprimer leur coquetterie. Et on peut dire dans la quête, dans la recherche d'une certaine performance esthétique. Qu'il s'agisse de la chevelure ou du textile, on trouve des traits communs qui ont été parfois soulignés par certains artistes, notamment Jack Herré, qui a pris des photos de toutes les coiffures tressées comme pour écrire un livre d'histoire à sa façon, par le biais des photos. Et ici, je vous ai mis une œuvre de François Borin, qui est un chercheur aussi, et qui a vu là, finalement, l'écriture fractale qui se retrouve très souvent sur les coiffures tressées depuis des générations, des siècles même. Et cette répétition de motifs, ce que représente le fractal, se retrouve aussi sur le textile. Et c'est pas étonnant d'ailleurs, on se disait un peu plus tôt que le livre d'Anne, le nouveau livre qui est traduit en japonais, intéresse le marché japonais, puisque cette répétition de motifs se retrouve aussi sur les textiles japonais. Voilà, alors on va peut-être s'intéresser maintenant réellement après l'identité et la signification des textiles. Je vais laisser la parole à Anne. D'abord, une petite carte très schématique, mais qui vous donne un petit peu la localisation de la provenance de quelques spécialités et de matières.
Alors moi, je partirais d'un constat un peu trivial ou provocateur. C'est le fait qu'ici il fasse froid, donc on s'habille aussi pour couvrir son corps pour des raisons climatiques ou physiologiques. Et en Afrique, le climat permettrait éventuellement de se promener nu. Donc le fait qu'on s'habille fait que ça répond uniquement à un besoin social. Et le textile s'inscrit complètement à 100% dans une dimension totalement culturelle. Et non physiologique. Il ne répond pas à un besoin climatique. Il répond uniquement au besoin de communiquer à travers le textile, communiquer entre les hommes et aussi faire le lien entre le visible et l'invisible, c'est-à-dire entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc la fabrication aussi devient chargée d'une dimension sacrée et l'artisan, celui qui va fabriquer le textile, a aussi une place très très particulière au sein du groupe social auquel il appartient. Alors aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont mondialisées. Tout d'abord, l'Afrique, une grande partie de l'Afrique a connu l'impact de la colonisation qui a joué sur les modes de vie, les modes de consommation. Mais malgré tout, l'artisanat continue de faire sens. Alors on a une omniprésence aujourd'hui du wax sur les marchés qui peut faire croire que finalement il n'y a plus d'artisanat. Alors attention, l'artisanat existe, mais la raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est que la plupart du temps, il est fait sur commande. C'est-à-dire que c'est pour un événement particulier que les gens vont contacter un artisan, que ce soit pour faire un boubou, donc on achète son tissu, on va le faire teindre, donc il va être réservé, ensuite teint, ensuite cousu, parce que le vêtement aussi est fait sur mesure. Si on a besoin d'un tissage aussi particulier, on va acheter son fil, l'amener chez l'artisan, et tout est fait sur commission. Donc ce qui fait que si vous avez la chance de voyager dans différents pays africains et que vous allez sur les marchés des capitales, ce que vous allez voir, c'est uniquement une production touristique. Donc c'est exactement comme ici, si vous allez dans les magasins de souvenirs de touristes, vous serez déçus par la qualité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'artisanat de qualité en Afrique, ça veut juste dire que ça prend du temps, il faut 15 jours, parfois un mois, pour commander un tissu, mais les savoir-faire sont toujours là. Et comme je dis, souvent l'artisanat, le rapport se passe directement entre le consommateur et l'artisan, sans passer par une commercialisation sur un marché. La deuxième idée qu'on peut avoir par rapport à l'artisanat, c'est que c'est le coton qui est l'étoffe de prédilection des textiles africains. Alors aujourd'hui, c'est le cas, mais en fait, historiquement, c'est la dernière étoffe qui rentre dans la sphère textile. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc avec les premières matières. Donc aujourd'hui, à travers cette communication, je vais insister sur la diversité des matières d'Afrique, avec principalement un focus sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et on va ensuite avoir un éclairage sur les usages actuels des différentes étoffes et parler un petit peu de l'approche des créateurs de modes africains. Donc on va commencer avec l'exploration des matières de la nature. Alors, les premières matières qui ont servi de vêtements, ce sont les écorces battues, qui sont d'origine végétale, et le cuir, c'est-à-dire les peaux tannées de bêtes d'origine animale. Les écorces, on les retrouve, ce qu'on appelle aussi le tapa, on les retrouve chez les pygmées d'Afrique centrale, en Ouganda, au Kenya, et puis aussi chez les peuples Dida, Baoulé et Bété de Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et donc c'est le tronc d'un arbre, une variété de figuier, de ficus, qui est mouillé, martelé, et un peu comme les trucs pour assouplir la viande, vous voyez, les maillets en bois, voilà. Et au fur et à mesure, on amoindrit, on le rend de plus en plus fin et de plus en plus souple, un petit peu comme une feutrine. Vous pourrez toucher une écorce battue tout à l'heure. Et en fait, l'idée de porter cette écorce d'arbre, c'est de faire finalement corps avec la nature, de s'envelopper dans le corps de l'arbre. Et ça montre vraiment, tout à l'heure, Stéphanie parlait de la cosmogonie, ça montre vraiment comment, dans les différentes cultures africaines, l'homme se positionne comme un élément de la nature et non au centre de la nature. Il fait partie de la nature, mais lui-même n'est pas en position dominante ou de suprématie. Il fait corps vraiment avec le reste. Et donc la matière, elle peut être utilisée à l'état brut ou bien décorée de codes symboliques. Donc les pygmées séparent les étoffes en quatre et il y a une chronologie en fait où ils racontent des histoires avec une chronologie d'événements. Avec des petits signes, des flèches, des ronds, etc. Ou bien on peut la laisser simple, ou bien la teindre également. La deuxième matière, c'est le cuir. Voilà, là vous avez une partie des écorces d'Afrique centrale. La deuxième matière, ça va être le cuir, donc d'origine animale. C'est en fait comme si on portait une deuxième peau, puisqu'on a la peau de l'animal sur soi. Donc il peut être porté de différentes manières. Au Niger, on a les peuls Oudabi qui le portent en pagne en fait. Ils ont des grandes tuniques brodées et en dessous, les hommes s'enveloppent comme un pagne à la taille d'une peau de bête. En Mauritanie et au Niger aussi, on travaille avec de la peinture et des dessins. Donc ça peut servir de vêtements, mais aussi beaucoup d'accessoires pour les coussins, les selles, les petits fourreaux à tabac. On a aussi tous les petits talismans qui vont être portés autour des bras, à la taille et en dessous. Donc ce cuir va permettre d'apporter une dimension sacrée et de protection à la personne. Et en Afrique de l'Est, en général, c'est un travail de perlage qui va être ajouté, comme ici, c'est une cape Maasai qui a été toute brodée de perles. Et donc, la perle, elle va contribuer à apporter un caractère magique et lui donner du pouvoir. Donc, on l'a aussi avec le kori, les petits coquillages blancs, qui aussi apporte une dimension sacrée bien plus qu'esthétique. Donc souvent on a ce regard en disant c'est beau. Avant d'être beau, c'est fait pour. Ce sont des signes, exactement comme l'a dit Stéphanie, qui sont là pour raconter des histoires ou pour apporter un statut avant la dimension purement esthétique. Et donc ces perles aussi, elles montrent, elles sont le témoin de l'ancienneté des échanges économiques entre le continent africain et l'Asie, puisque à l'origine, ces petites perles de rocaille viennent de Chine et d'Inde. Donc on est souvent dans des rapports nord-sud avec cette histoire coloniale, etc., où on voit toujours tout ce qui vient, tous les produits manufacturés seraient venus d'Europe. Mais en fait, il y a une très grande tradition, même en Afrique de l'Ouest, mais surtout en Afrique de l'Est, avec énormément d'échanges Asie-Afrique. On passe au raffia, troisième matière, merci. Alors le raffia, c'est une plante assez remarquable pour sa dimension écologique, comme on dirait aujourd'hui, dans le sens où toute la vie s'organise autour du palmier, parce qu'il sert à la fois à fabriquer le toit des habitations, il sert de combustible pour la préparation des mets, c'est une matière qu'on distille aussi en alcool, et puis on en fait aussi un vêtement grâce à ses fibres. Alors au début, les fibres ont été utilisées à l'état de fibres uniquement, notamment pour faire les caches-sexe des femmes. Et puis, petit à petit, et pour marquer le changement de statut de l'enfant à la jeune fille pubère. Et puis, on en a aussi fait des tissus avec deux techniques, le tressage et le tissage. Alors le tressage, c'est surtout le peuple Dida de Côte d'Ivoire qui l'a développé. C'est comme un tissage, mais sans métier à tisser. C'est-à-dire que la femme attache sur son gros orteil les fils et par un système, elle tresse. Vous voyez, elle tourne. Et au fur et à mesure, elle obtient un textile complètement tubulaire, qui est ensuite décoré, comme ce que vous avez vu tout à l'heure avec la photo du mariage, avec des formes assez oblongues. Donc là, on est en Côte d'Ivoire. Et en Afrique centrale, c'est davantage du tissage, donc sur métier vertical, comme les métiers de tapisserie, pour le tapis. Et une technique de velours aussi, qu'on appelle les velours du Kassai.
Alors, à savoir peut-être une petite aparté sur le tissage. Le tissage, jusqu'à présent, et encore beaucoup, initialement, originellement, était un métier d'homme, parce que la posture que l'on devait d'avoir pour tisser, c'est-à-dire, c'était un tissage à bande. Dans l'acte 2 de cette conférence, d'ailleurs, on vous montrera quelques images. En fait, obligé d'avoir les jambes écartées, et c'était pas perçu comme décent pour une femme. C'est pour ça que la plupart des tisserands sont des hommes. Mmh. Voilà. Et que l'apparition du tissage vertical a permis justement l'entrée des femmes auprès des métiers à tisser et donc dans la production de textiles.
Alors, je vais revenir un petit peu sur la codification pour montrer comment le textile renvoie à la cosmogonie et aussi à tous les mythes fondateurs, avec l'exemple du peuple Bateke du Bas-Congo. Donc, le métier est sacré, c'est-à-dire qu'il va provenir, il va être fabriqué avec le bois d'un arbre très particulier. L'orientation aussi dans l'espace et les moments du mois et de la journée où ils vont fonctionner vont être très codifiés. Et le peigne en raffia, va être composé de 12 petites pièces qui sont cousues ensemble, 12 qui renvoient aux 6 couples des ancêtres fondateurs, des ancêtres mythiques. Et donc 12, c'est aussi 4 rangées de 3, c'est-à-dire qu'il y aura les eaux qui vont séparer le ciel de la surface de la terre et du monde souterrain. Donc le tissu fait vraiment sens et il est porteur de l'histoire du peuple. Et donc s'enrouler dans le pagne, ça veut dire finalement porter l'image du monde tel qu'on le conçoit. Et en général, on va porter ces tissus aussi lors du deuil, quand le défunt va être enveloppé dans ce tissu, dans une espèce de spirale de tissu, parce que ce sont des tissus très 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 longs, ces pièces de raffia. Et ce mouvement va représenter le mouvement de la vie dans lequel ensuite on est enveloppé. Et on dit que si on arrive et que le défunt est enroulé dans un tissu industriel, finalement, c'est comme s'il arrivait sans parole et que les ancêtres ne vont pas le reconnaître. Donc il faut absolument qu'il vienne avec une étoffe artisanale qui fait sens. Et en même temps, les plus belles étoffes, finalement, ne vont pas être portées par les morts, par les vivants, mais elles vont être portées par les morts. Donc on voit vraiment comme... Le tissu n'est pas uniquement dans une dimension esthétique, il est avant tout porteur de sens. Alors le raffia, c'est aussi la matière qui a servi à porter la technique de tissage. Notamment, on le retrouve dans un mythe Évé, donc des populations du Togo et du Ghana, puisqu'on raconte qu'un chasseur qui s'appelait C a observé une araignée tisser. Et il a essayé de reproduire ce tissage avec du raffia. Et donc, on voit comment, à nouveau, l'homme essaye d'imiter la nature, c'est-à-dire qu'il ne domine pas la nature, c'est lui qui apprend des animaux et du reste des êtres vivants. Et donc, le tissage se serait venu peut-être par le raffia ou bien par la laine. Vous voyez, on n'est pas encore au coton, il arrive vraiment à la fin. Alors la laine, c'est une étoffe aussi très importante en Afrique, parce que c'est là où on a vraiment les preuves historiques, on n'est plus dans le mythe, on a des preuves historiques, comme quoi c'est la laine qui a permis de développer ce fameux métier à tisser, où on écarte les jambes, ce petit métier qu'on appelle un métier à basse lisse ou un métier horizontal, en petites bandes étroites qui sont ensuite enroulées, qui pouvaient aussi servir de monnaie, qu'on mesurait à la coudée, et qu'on assemble ensuite bord à bord pour faire des vêtements. On verra après soit des pagnes, soit des tuniques. Donc c'est un métier qui est transportable et qui est démontable et qui est utilisé par les peuples nomades. Et ce tissage se développe dans un contexte aussi de... Donc il arrive du Maghreb, on va dire, et il se développe autour de la boucle du fleuve Niger. Et donc les premières sources archéologiques que l'on a actuellement sont situées globalement là où vit actuellement le peuple Dogon, dans les falaises de Bandiagara. Mais à l'époque, c'était un peuple qui s'appelait les Télem, qui avait été repoussé par le peuple Mossi. Il s'était retrouvé acculé sur ces falaises. Et c'est dans ces grottes-là qu'on a retrouvé les fragments. Donc ça peut être bien antérieur, mais on ne le sait pas. Et donc, le tissage arrive, je vous dis, de la zone du Maghreb, et il suit en fait les routes de conversion à l'islam. C'est-à-dire que l'islam est imposé de cacher le corps, et donc en même temps qu'il y avait cette conversion, on disait voilà, et pour cacher le corps, vous pouvez finalement, voilà un moyen très efficace de fabriquer des bandes tissées. Et petit à petit, au fur et à mesure de la conversion, les gens ont utilisé de plus en plus du coton qui poussait de manière sauvage dans ces zones-là. Et il y a très peu de peuples, à part les Fulani, qui continuent vraiment à tisser de manière traditionnelle de la laine. Alors j'ai dit à l'enfant, que le coton poussait là, parce qu'aujourd'hui c'est très rare de trouver encore du coton africain local. La plupart du temps, les pieds ont été arrachés et toute la production actuelle qu'on trouve au Mali, au Bénin, etc., c'est du coton qui a été apporté par rapport à l'économie de traite, comme le café, cacao, pour satisfaire les besoins des industries d'Europe. Donc on n'est plus, même si le coton pousse en Afrique, il est plus celui, les variétés qui poussent aujourd'hui ne sont plus des variétés locales, mais c'était uniquement pour répondre à un besoin des pays du Nord. Donc à partir de ces bandes, on peut faire plusieurs vêtements. Donc le premier vêtement, c'est le vêtement de la femme, le pagne. Donc on assemble les bandes bord à bord. En général, il y en a 7. Et après, on peut faire une tunique toute simple, comme ça, comme les boubini du Mali. Donc, on a les bandes qui sont positionnées de manière verticale, d'accord ? Il peut y avoir une poche
ou bien on peut rajouter des manches. Donc là, vous voyez bien, parce qu'il y a les rayures, la structure du vêtement, c'est verticale pour ce qui est le corps et horizontale pour les bras. Là, c'est tunique droite, on est d'accord. Après, il y a les types Batakari que l'on retrouve au nord du Ghana, au Burkina Faso. Il y a d'autres peuples qui les ont. Les Kotokoli aussi ont ça, au Togo, au centre du Togo. Et donc là, entre les bandes verticales, on insère des triangles pour avoir une base beaucoup plus évasée. On garde les manches. Et après, vous avez le grand boubou comme celui-ci, Kotokoli, donc inspiration islamique. Ça ressemble au type Haoussa aussi du nord du Nigeria. Donc là, on voit moins bien, mais on a à nouveau les bandes horizontales et les manches qui ont exactement la même taille, qui sont de manière horizontale au niveau de la structure du vêtement. Et ce qui est important de voir, c'est que la taille du vêtement n'a pas de rapport avec les mensurations de la personne. La taille du vêtement est proportionnelle au prestige de la personne. On a la même chose avec les pantalons. Au British Museum, par exemple, il y a des pantalons nupes qui font 3 mètres. Hein, c'est un pantalon froncé à la taille qui font 3 mètres de circonférence. Voilà. Ce n'est pas que la personne était énorme, c'est qu'elle était très importante. Donc, à une époque, je disais, quand on avait notre président, je disais par exemple le président Sarkozy, il aurait eu des très, très grands boubous, même s'il était
tout petit.
Petit, voilà. C'était...
Mais vous imaginez bien la lourdeur aussi que représente le vêtement. Et n'oublions pas qu'on est sous des latitudes chaudes, parfois humides. C'est difficile, mais c'est tellement signifiant que voilà, ça fait partie aussi d'un statut social et d'un rôle à jouer et à porter.
Et aussi dans la manière de le porter. Tout à l'heure, tu parlais du port de tête, etc. Le fait de sans arrêt rabattre les manches, etc., va participer aussi de son prestige et de la théâtralisation de la mise en scène de son statut. Alors là, on a beaucoup parlé de la matière qui est à l'état écru brut. Maintenant, on va parler des couleurs. Et la première couleur, c'est le bleu indigo qui vient d'un végétal. Et que alors il y a plusieurs bleus à partir de suivant l'intensité. Il y a un bleu que l'on appelle souvent noir et au Mali généralement dans les différentes langues les descriptions vernaculaires le bleu et le noir sont la même couleur. Et puis vous avez des couleurs très claires et en Wolof on appelle ça le bleu du lait. Donc c'est un bleu qui est très très clair qui est très très dilué et la couleur Wolof s'appelle c'est encore plus clair. C'est le bleu du lait. Donc, vous avez une série de teintes différentes. Alors, on peut teindre les fils avant le tissage. Donc, soit avec un système de ligature pour faire des effets dicates, ou bien carrément pour faire, par exemple, comme chez les Dogons, des associations de carrés pour des tissus en damier où on n'aura que du bleu, quoi, du noir et du blanc. Notamment pour la couverture des morts, donc on aura 8 bandes qui représentent les 8 familles avec une alternance de carré noir et blanc. Et cette couverture va être appelée l'allié, puisqu'elle vient des ancêtres. Et c'est celle que le prêtre porte quand ils font les semailles, puisque c'est les ancêtres qui vont permettre que les graines
soient fertiles.
Voilà, la terre soit fertile et que la récolte, c'est la promesse d'une bonne récolte. Et puis, il y a aussi énormément de teintures en réserve, c'est-à-dire qu'on prend le pagne donc, qui résulte de l'assemblage de plusieurs bandes et on va ligaturer ou bien coudre des réserves. Et là où le tissu sera isolé, ça va empêcher la teinture de pénétrer. Et donc quand on va teindre dans l'indigo et enlever, ça va révéler en négatif des motifs plus ou moins blancs ou bleu clair. Et ce qui est intéressant, c'est que cette couleur indigo, on la retrouve à travers le monde entier, au Japon notamment, mais en Afrique, c'est vraiment le bleu de l'Afrique, mais chaque peuple a développé des motifs très très particuliers. Donc il y a une identité vraiment de chaque culture à travers ces dessins. Donc là vous avez les motifs oblong bozo, là on est chez les Mossi du Burkina Faso, et là vous avez un détail de Ndop, Bamileke du Cameroun,
Alors le NDOP, c'est très très particulier et ça montre aussi à nouveau ce côté, le fait que les Africains n'aient pas vécu en autarcie. Depuis très longtemps, il y a eu énormément d'échanges, puisque ce tissu, il est tissé au nord du pays, mais les réserves cousues sont faites par les Bamileke, et il fait 3000 kilos, il redescend pour qu'on le couse. Il remonte parce que les grands teinturiers sont au nord et il redescend pour qu'on le défasse et qu'on fasse la teinture. Donc il y a deux savoir-faire de deux peuples qui se complètent pour la réalisation de ce tissu sur 3000 km de fabrication. Donc vous imaginez à nouveau la valeur, c'est pour ça que je disais c'est les belles pièces ne sont pas sur les marchés, c'est des choses qui sont faites sur commande et qui peuvent prendre des semaines, voire des mois de fabrication. Et bien sûr, là, il y a toute une symbolique, c'est pas grave. Il y a toute une symbolique des motifs. Alors, dans l'indigo aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processus chimique. Donc, le tissage, c'est mécanique. Donc, c'est assez, comment dire, c'est assez concret. Alors que la chimie, on ne sait jamais vraiment au niveau des doses ce qui va se passer. Et donc, il y a tout un côté du surnaturel aussi qui va entrer en jeu. Donc il va y avoir des prières pour être sûr que la teinture va bien prendre et tout un tas de superstitions. Par exemple, quand la teinture a mal pris, on va demander à une femme enceinte de tourner davantage ou de rajouter des feuilles. Et en fait, ce n'est pas le fait qu'elle soit enceinte ou pas qui fait que ça va, ça va marcher. C'est que justement, c'est parce qu'on a pas, il faut beaucoup de mouvements pour la réaction chimique de l'indigo. De la même manière, on va dire qu'il ne faut pas qu'il y ait tel animal ou que quelqu'un mange des oranges à côté et ça va, ou des agrumes. Et en fait, ça va jouer sur le fait que la couleur va virer si elle est citrique plutôt qu'alcaline. Donc il y a des explications très scientifiques, mais qui prennent la forme de superstitions, on va dire, autour de cette couleur, et qui viennent du fait que la teinture soit quelque chose de chimique. Donc on est toujours dans quelque chose qu'on ne peut pas démontrer finalement. Alors un autre noir, là on est dans le vrai noir, c'est le bogolan. Alors, le noir du bogolan, il s'obtient d'une manière assez particulière. Il vient de la boue d'une mare, qui est le lieu sacré du village, où sont réunies, en fait, les âmes des morts et les âmes des personnes, des enfants à naître. Et donc, c'est là où séjourne Dieu. Parce qu'en fait, le peuple Bamana ou Bambara, je sais pas comment vous l'appelez, considère que c'est là que résident les âmes, alors que nous, on les met dans le ciel, généralement. Donc, dans cette terre, ça va donner de la source. C'est une source de protection divine. Et puis, c'est une source de fertilité, de fécondité, parce que c'est un lieu humide. Alors, comment on obtient ce noir? En fait, l'étoffe écrue de coton est trempée d'abord dans une décoction de feuilles de ngalama. Et ensuite, il va y avoir un effet de mordant, de révélation de l'oxyde de fer qui est contenu dans la boue et qui va virer au noir. C'est-à-dire que si on applique directement la boue sur le tissu, on lave le tissu, il redevient blanc. Alors que si à cette base de ngalama, qui est couleur un peu jaunâtre, la boue va se transformer en noir. Et quand on va laver, la croûte va partir, mais la couleur sera restée. Et donc le dessin, vous comprenez bien, c'est le noir.
On part de l'étoffe qui est blanche. Et donc tout le dessin se fait par évitement. C'est-à-dire qu'on dessine le fond, et ce qu'on ne dessine pas, c'est ce qui devient le dessin. D'accord ? Et donc chaque élément va avoir une signification. Ces traits, par exemple, que l'on retrouve là, s'appelle ngalé-ngalé, ce qui veut dire autrefois, il y a longtemps. Et donc c'est ce qui va renvoyer à nouveau au mythe fondateur et à l'histoire du peuple. Là on aura Tigafarani et les coques d'arachide. Et là c'est un de mes préférés, c'est le chemin de l'homme qui ne paye pas ses dettes. Et donc il passe son temps à éviter ses créanciers pour ne pas les rembourser. Et c'est pour expliquer qu'on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas passer sa vie à éviter les gens. Voilà. Alors, en général, le bogolan, à la base, même si aujourd'hui, il y a une production beaucoup plus profane, à la base, il est lié aux pertes de sang.
Et c'est ce qu'on appelle un réservoir d'énergie vitale du nyama. Perte de sang, donc c'est le tissu des chasseurs, mais aussi le tissu de l'excision des filles. Et c'est pour ça que la femme doit être enterrée dans ce tissu, parce que tout ce qu'elle a perdu, en fait, et tout ce sang et toutes ces énergies qu'elle a perdues, vont être dans ce tissu. Donc le tissu est porteur de son histoire, de toutes ces énergies vitales perdues qui sont retenues prisonnières dans les fibres. Et donc c'est un peu le double de la personne. Et pour retrouver la personne dans son intégralité, il faut qu'elle elle-même parte et soit enterrée avec ce tissu. Donc le tissu devient double. On arrive au wax. Alors, en quoi, finalement, le wax, on change vraiment de domaine, de type d'étoffe, en quoi on peut dire qu'il s'inscrit dans ce paysage textile? En fait, le wax est avant tout un produit de la rencontre des cultures, puisque son origine, c'est le batik indonésien. C'est un batik indonésien qui a été retravaillé par les industries cotonnières d'Europe, l'Europe, c'est-à-dire la Hollande et l'Angleterre, et qui s'est ensuite adressé au marché africain. Alors aujourd'hui, on voit des wax très très colorés, mais les premiers wax, en fait, ils étaient aussi à base d'indigo et avec des teintures très très foncées. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont séduit le marché aussi, c'est qu'ils se rapprochaient énormément des étoffes artisanales. L'autre raison du succès du wax, c'est que ça a toujours été un produit de luxe. Et comme vous l'avez compris, le textile africain, c'est avant tout un moyen d'affirmer son prestige. Et donc, ça, le vrai wax est finalement très, très cohérent dans cette sphère du textile. Aujourd'hui, c'est complètement différent puisqu'on a des imitations de wax asiatiques. C'est quelque chose qui tue les économies africaines. C'est un produit de mauvaise qualité et quelque chose de très, très coloré aussi. Donc, on est carrément sorti de cette cohérence, si on peut dire. En même temps, le wax, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il arrive avec les missionnaires qui amènent la machine à coudre et qui introduisent le modèle de ce qui deviendra la kaba au Cameroun, c'est-à-dire cette robe qu'on retrouve en Indonésie, la robe mission ou la robe popinée, avec un empiècement ici, des petites manches, et puis le bas très très évasé pour couvrir le corps, pour le cacher, pour être décent finalement, bien plus que élégant, et qui va devenir raccourci sous forme de camisole. Et le wax, très vite, qui était donc un tissu destiné à être découpé et cousu, va être combiné avec les pagnes drapées. C'est-à-dire que les femmes, le modèle traditionnel, comme elles le portent ici, c'est un corsage cousu, mais ensuite un premier pagne drapé jusqu'aux chevilles et un autre sur les hanches, qui peut être rabattu sur l'épaule comme une étole, ou qui sert de porte-bébé. Donc il va y avoir très vite, quand je dis très vite, c'est dès les premières photos noir et blanc que l'on trouve chez les missionnaires, un syncrétisme en fait. C'est un élément, une étoffe qui vient d'ailleurs, mais qui reprend les codes des étoffes traditionnelles. C'est aussi un tissu qui rentre dans une sphère culturelle parce qu'il devient un support de langage, notamment par la façon dont les nanabens, c'est-à-dire ces commerçantes togolaises qui prennent la tête de son commerce, l'utilisent pour envoyer des messages. Donc très vite, c'est bien plus qu'un simple tissu, mais un élément c'est la parole des femmes en fait qui s'exprime à travers ce tissu. Et le fait qu'il soit finalement venu d'ailleurs, qu'il soit allogène, qu'il n'ait pas d'ancrage historique ancien dans aucun peuple d'Afrique, fait finalement que ça lui donne un côté fédérateur et panafricain. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai montré le Bogolan qui est avant tout Bamana, mais on va dire qu'il est malien, le Ndop qui est Bamileke, mais qui est emblématique du Cameroun, le Kinté qui est Akan, mais on va dire qu'il est ghanéen ou Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Togo. Le wax, finalement, il est ni l'un ni l'autre, et du coup, il est tout à la fois, et n'importe quel Africain ou Afro-descendant, aujourd'hui, peut dire, mais je me reconnais dans le wax, il a cette force fédératrice, Et donc, comme je dis, il n'est pas africain et du coup, ça lui donne cette dimension panafricaine. Ensuite, je pense que si le wax aujourd'hui a tant de succès et qui fait oublier peut-être pour certains tous ces trésors, tous ces savoir-faire, c'est aussi parce qu'il est profane et qu'il n'a pas cette dimension sacrée. Donc, ça veut dire qu'on peut le coudre, le découper, en faire ce qu'on veut sans choquer. Et que tous les usages sont permis, à la fois comme vêtements, comme accessoires, dans la décoration. Alors que ça peut être, je l'ai vu récemment avec un film de Danny Boone, justement, où ils avaient mis, alors le décorateur pensait qu'il faisait quelque chose de bien. Il a mis un dope bamileke sur le lit, et puis c'était une scène où il était, je sais pas, il faisait de multiples rencontres, et à chaque fois il arrive, il commence à se déshabiller, hop, il se jette sur le lit avec la jeune femme, sur un dope bamileke. Première scène, ça me choque, et il l'a fait 2-3 fois dans le film.
Et j'ai dû écrire.
Pardon ?
On va le réécrire.
C'est quelque chose de... Moi-même, ça m'a choquée. Je pense que quelqu'un qui est issu du peuple bamileke serait encore plus choqué. Et on ferait ça sur un canapé où il y a des coussins en wax. Ça ne choque personne. Ça fait rire, mais ça... personne ne peut se sentir offensé. Donc, c'est aussi ça, le fait que... c'est plus facile pour des créateurs aujourd'hui qui ne connaissent pas les codes et qui veulent aussi se positionner par rapport à des marchés complètement cosmopolites. C'est beaucoup plus facile d'utiliser le wax. Mais ça ne veut pas dire, j'insiste bien, sur le wax n'est pas là pour tuer tout le marché. Il est juste là parce qu'il est, il est plus facile d'accès. Mais pour moi, ça doit être une... peut-être la première porte pour s'interroger et amener les gens à découvrir et à rechercher, mais ça demande plus de démarches, plus de recherche en fait. Et pour moi, c'est un bien finalement de préserver les étoffes africaines pour des gens qui vraiment font la démarche de les rechercher.
Néanmoins, le wax porte aussi ses significations et chaque motif a une traduction ou un nom.
Voilà, et là on a par exemple « Si tu sors, je sors » avec une cage qui est fermée et puis l'autre qui part. Et puis à un moment, il y en a un qui part et puis le deuxième dit « Bon ben, allez hop, moi j'y vais aussi ».
Puisque nous sommes dans la plupart du temps sur des sociétés polygames. Mm-hmm. Donc voilà, il n'y a pas d'adultère, mais des messages qui sont transmis avec la première femme qui a aussi normalement la réserve des plus beaux tissus, des plus belles étoffes, et qui s'exprime au travers de ce qu'elle porte. Le tissu est toujours très très signifiant.
Et ce qui est intéressant aussi par rapport au nom des pagnes, c'est le côté polysémique qui révèle vraiment la pluralité des cultures africaines, comme tu as bien dit, 54 pays. C'est-à-dire que même pour des peuples frontaliers, on peut avoir des noms différents. Il y en a un, par exemple, qui va s'appeler conseiller ou conseil en Côte d'Ivoire. Ce même tissu s'appelle macaroni au Togo. Et au Ghana, il s'appelle quelque chose de bien m'est arrivé cette année. C'est ce que portent les femmes quand elles ont les années de naissance des enfants. Donc il y en a toute une série comme ça de dessins qui ont des noms complètement différents, comme la couverture de mon livre, qui s'appelle l'escargot hors de sa coquille au Togo, donc celui qui se mêle des affaires des autres. Il s'appelle coquillage en Côte d'Ivoire, et il s'appelle le régime de banane au Ghana. Et à l'origine, c'est un motif indonésien qui reprend les ailes du Garuda, qui est l'oiseau sacré du Vishnu. Donc vous voyez, c'est... C'est ce qui est intéressant aussi dans le wax, de voir que ce n'est pas quelque chose d'africain et de monolithique, mais que même à travers ce tissu fédérateur, on arrive à lire les spécificités de chaque peuple. Et voilà, ce n'est pas quelque chose d'uniforme.
Donc vous l'aurez compris, l'Afrique reste une option pour les marques qui recherchent des artisans qualifiés, un univers créatif nourri, ou des conditions de fabrication éthiques. Néanmoins, il faut le savoir, la production locale reste chère, plus chère qu'en Asie, parce que les intrants, les consommables sont très chers, c'est-à-dire le sourcing matière, étant donné que voilà, cette matière, il n'y a que 10% de la production de coton mondial qui est produite en Afrique, et la plupart du temps, faute d'usines de transformation, ce coton-là est exporté pour être réimporté sous forme de fil ou de tissu, ce qui est très dommageable, hein, sachant que toute cette masse de population a été exportée lors de la traite négrière, hein, pour servir cette industrialisation. L'Afrique aurait pu être le grenier du monde, donc notamment maintenant, c'est vraiment... elle a réussi à préserver toute cette culture qui est aussi ancrée dans son tissu, et à nous maintenant de créer des ponts, des passerelles pouvant préserver cette on ne peut pas parler encore d'industrie, mais tout cet artisanat qui est très fertile. Donc je le disais, aujourd'hui cette création est très riche. Cette production est encore chère parce qu'on manque aussi d'outils de production, ou parfois il faut monter les unités de production. On est sur des métiers qui ne sont pas encore professionnalisés, même si ce sont presque des non-métiers, puisqu'on n'était pas tisserand au départ. On était tisserand à l'occasion de quelques fêtes, quelques jours par an, pour servir les mariages ou certaines cérémonies.
Oui, alors au début, quand je faisais mes enquêtes de terrain, souvent je faisais des photos à l'époque de l'argentique, et donc je prenais les adresses des gens pour leur envoyer, et parfois il y avait des problèmes pour épeler, donc ils me donnaient leur pièce d'identité. Et donc je voyais des tisserands qui faisaient des EV, par exemple, qui faisaient des choses merveilleuses, pour moi qui demandait des années vraiment d'apprentissage, et au moment où je prenais la carte d'identité, je voyais agriculteur ou menuisier. Et ils me disaient oui, parce que c'est en fait une activité saisonnière, et donc eux-mêmes, et donc ils sont même pas recensés, si vous voulez, c'est-à-dire que l'État lui-même n'a pas un répertoire pour pouvoir mesurer la capacité de savoir-faire le monde, qu'est-ce que représente vraiment la force de ces artisans qualifiés. Donc c'est triste, c'est une invisibilité complète en fait.
Exactement, et c'est d'ailleurs un peu ce que vont chercher à faire la jeune garde, la jeune création aujourd'hui, de tous ces créateurs afrodescendants qui vont récupérer finalement, se réapproprier tout ce savoir-faire culturel et tout cet héritage culturel pour l'inscrire dans une nouvelle modernité, la plupart du temps pour le respecter et préserver des métiers. Que si leur fabrication n'était pas en Afrique, elle serait complètement anéantie, puisque encore une fois, on est sur des métiers d'autodidaxie, les gens apprennent sur mesure, on n'est pas dans des formations, il n'y a pas de professionnalisation, les écoles de mode sont rares. Donc la démarche des créateurs aujourd'hui, elle est essentielle pour cette préservation. Ici, Anne, tu peux nous en parler puisqu'il s'agit de tes photos.
Alors, ben vous avez la réponse. En fait, ce que vous voyez là, c'est l'écorce battue. Donc, il n'y a pas plus brut, si j'ai envie de dire. C'est là, tout ce que vous voyez, ça, c'est une... toute la robe, en fait, c'est de l'écorce.
Et c'est l'Iquam qui a fait ça.
C'est l'Iquam de Côte d'Ivoire. Mais ensuite, c'est uniquement un perlage qui est frontal. Et là, vous voyez, il y a des broderies, mais tout, c'est ça, c'est le détail de cette zone. Mais tout le bustier est en écorce battue, et vous voyez que cette matière-là devient tout d'un coup très noble par la magie d'un créateur de mode. Donc il y a toutes ces matières à valoriser. Et moi, ce qui m'intéresse dans la haute couture, c'est comment on arrive à sortir les étoffes de leur contexte, mais pour leur bien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pas pour les banaliser et pour les vendre à grande échelle en faisant des choses moins belles, mais pour dire, regardez, ce tissu qui est sacré, finalement, on le met aussi dans le domaine de l'excellence pour que le monde puisse l'admirer et pour montrer ce qu'on sait faire. Et c'est ce qu'a très bien fait le créateur Chris Seydou, le créateur malien. C'est-à-dire que quand il a utilisé les premiers bogolans du Mali, c'était des étoffes, comme je vous dis, liées à l'excision, etc. Et il en a fait des tailleurs, et il a dit... Le message un petit peu qu'il y a derrière, c'est de dire, vous les voyez uniquement dans un contexte de rituel, mais il faut aussi de temps en temps prendre du recul et les regarder pour leur beauté. Et le fait que le monde entier, quand je dis le monde entier, c'est qu'il y a eu le défilé au Cœur Samba à Paris, puis après il y a eu des commandes aux États-Unis, le fait que le monde entier s'émerveille de ces tissus a fait prendre conscience aux Maliens que eux-mêmes ils avaient une richesse. Et ils sont devenus consommateurs après coup. Ça fait un effet de boomerang.
C'est comme tu dis, ça leur prête aussi une valeur. Ça restitue la valeur esthétique du tissu qui n'était pas vu alors.
C'est-à-dire qu'avant, on portait du bogolan. Attendez. Je finis le truc et on vous écoute sur le sujet. C'est-à-dire que pendant longtemps, celui qui venait en ville, c'est-à-dire à Bamako, habillé en bogolan, on disait non mais lui c'est vraiment le villageois. Et celui qui était urbain était habillé en boubou, en bazin. Donc une étoffe importée d'Allemagne ou d'Autriche et puis qui était teinte par les artisanes teinturières, avec les broderies, etc. Tout un code musulman. Et donc, c'était vraiment le tissu de l'animiste, quoi, de celui qui n'était pas éduqué, selon les mots, qui arrivait au village en bogolan. Avec Chris Seydoux, et de dire, regardez, mais le bogolan, c'est beau, il y a eu toute une économie, donc d'autres motifs, des motifs réalisés au pochoir pour que ce soit travaillé de manière plus rapide et plus une productivité et une rentabilité plus forte. Mais ça a engendré toute une économie, en fait, locale et écologique, parce que j'ai dit, c'est végétal, minéral. Donc, ça n'a rien à voir avec la teinture chimique et tous les enjeux écologiques tristement négligé par la teinture chimique du bazin. Donc, et l'idée, c'est de se dire, mais finalement, pendant longtemps, on disait le bogolan, oui, mais il est lié à l'excision. Et puis, si on éradique l'excision, il y a toute une économie autour, parce que ça fait au-delà de la mutilation des filles, ça fait vivre des femmes, ça fait vivre des artisanes. Mais aujourd'hui, si l'excision disparaît, grâce aux créateurs de mode, toute cette économie autour du bogolan peut perdurer, voire s'étendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sortir le tissu de son contexte, ça peut être très très bénéfique, à condition non pas de travailler sur le tissu sacré, mais sur les savoir-faire. Et c'est ça qui est important pour ne pas choquer, pour ne pas être iconoclaste. La mission aujourd'hui des créateurs de mode, c'est pas de prendre les tissus du village et de les mettre, mais c'est de dire, mais vous savez travailler tel type de tissage, tel type de matière, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour en faire de la mode ou des tissus urbains? C'est ne pas perdre les savoir-faire. C'est pas prendre les tissus du musée et en faire autre chose et être sacrilège vis-à-vis des ancêtres ou vis-à-vis de ce que représente le tissu. C'est mettre en valeur des savoir-faire qui sont uniques, qu'on n'arrive pas à reproduire dans d'autres... en Asie, que l'Asie ne pourra jamais mécaniser, etc. Mais pour élaborer d'autres tissus. C'est uniquement ça, quoi. Et du coup, c'est la porte ouverte à la création sans fin. Alors que si on prend uniquement les tissus traditionnels, au bout d'un moment, on va avoir une fin, quoi. Si vous voulez, le Ndoba Mileke, on va dire oui, mais on l'a déjà vu. Alors qu'à partir de cette technique-là, on peut aller plus loin, on peut changer les couleurs, étendre les motifs, créer un autre registre de motifs, etc.
On va prendre la question du fond peut-être avant de passer.
Plus fort, plus fort.
C'est assez. Mais lorsque vous dites que les écorces battues et les textiles rituels deviennent des textiles intéressants pour la haute couture, est-ce que vous n'avez pas l'impression que du coup ces traditions ne peuvent être légitimées en Occident que par un système du coup occidental? Et est-ce que ça ne pose pas un problème de la haute couture?
Je pense que Anne a répondu à la question en disant que ça permettait justement la préservation de certains savoir-faire, parce que on ne touche pas au tissu rituelique, mais on permet une production plus vaste et qui entretient cet artisanat.
Oui, mais alors, pardon, c'est parce que j'ai oublié les guillemets. En fait, c'est les créateurs africains qui c'est abusif, mais c'est pas grave. C'est eux qui disent qu'ils font de la haute couture. Donc quand je parle de la haute couture, là je parlais pas de Dior, Yves Saint Laurent, etc. J'ai parlé de Seydou, de Chris Seydou, pardon, de Pateo, de Gilles Touré, d'Eli Kwam. Ce sont des créateurs africains. Et c'est pour ça qu'ils font des, je veux dire, qu'ils travaillent bien, parce que eux-mêmes, ils connaissent les codes traditionnels de ces tissus et ils les amènent ailleurs. Mais eux-mêmes, ils ont toute cette connaissance. C'est-à-dire que Eli Kwam, c'est pas un secret, c'est pas un hasard s'il utilise les écorces battues, c'est que lui-même, il a grandi chez les Bété, il parle la langue Bété, même si physiquement il ressemble pas à un Bété, il parle complètement, il a été élevé par des Bété, et donc il a pris ce tissu-là, il est pas allé chercher un tissu au Cameroun, il prend quelque chose de sa culture. Je parle pas de créateurs occidentaux qui vont chercher, je parle de créateurs africains, donc eux ils disent qu'ils font de la haute couture, même si ça correspond pas à la définition française, et c'est des gens de leur culture qui disent moi je touche pas, je mets en lumière les artisans de mon peuple, mais sans toucher au tissu de mes ancêtres, si vous voulez. Est-ce que c'est clair?
Et si le rapport c'est celui de l'œil de l'Occident sur la production du Sud, ça reste un vêtement, c'est-à-dire que le vêtement sur des scènes, ce qu'on cherche aussi, c'est créer la chaîne de valeur qui n'existe pas aujourd'hui, qui permet pas finalement à cette industrie qui est, enfin, ce secteur d'activité aujourd'hui d'éclore et d'évoluer comme un levier de développement, parce que c'est le discours unanime qu'ont tous les créateurs de mode africaine ou qui font Made in Africa ou afro-descendants, c'est de créer cette chaîne de valeur qui leur permette aussi d'être présents sur des scènes et de créer des échanges qui permettent le volume et de reconnaître des professions et de reconnaître les agents de cette profession comme des agents économiques qui permettent à l'Afrique de se replacer comme partenaire commercial valable et finalement de restituer des l'outil production là où il pourrait être parmi les plus fertiles.
Et je... Oui.